Radio Okapi.
À la présentation du journal, Jacques-Yves Molima.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette édition du journal parlé. Voici les temps forts de l'actualité. Dans le cadre de la commission bilatérale RDC Zambie, le chef de l'État congolais Joseph Kabila à la tête d'une forte délégation a séjourné pendant 24 heures en Zambie au menu de discussions, entre autres, les questions liées au péage et à la sécurité aux frontières entre les deux pays. Dans ce journal, vous suivrez les vice-premiers ministres, ministres des Transports et voies de communication, José Makile Soumanda, à ce sujet. 10 ministres, un secrétaire exécutif et deux adjoints, c'est l'équipe du gouvernement provincial du Kassai Central. Le gouverneur Denis Kamba l'a rendu public ce dimanche à Kananga. Les détails dans cette édition. Les communes sont mises à contribution par l'hôtel de ville de Kinshasa dans la gestion des déchets, des décharges publiques et centres de transit des déchets se trouvant dans leur juridiction. Il leur est demandé notamment de trouver des moyens pour l'entretien de ces sites connus pour leur débordement et leur pianteur. C'est le dossier que nous propose Babel Mpongo Massimango dans cette édition du journal. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour. Retour à Kinshasa hier dimanche du président de la République après une visite de 24 heures en Zambie. Le président Joseph Kabila a eu un tête-à-tête avec son homologue zambien samedi à Lusaka. C'était dans le cadre de la commission bilatérale RDC Zambie. Une délégation forte des 5 membres du gouvernement qui ont travaillé avec leurs homologues zambiens. Chaque ministre a parlé des questions concernant son département. Les questions liées au péage et à la sécurité aux frontières entre les deux pays ont été mises en exergue lors de ces discussions. José Makila Soumanda, vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, faisait partie de la délégation. Il nous fait le bilan de cette visite. Il est joint au téléphone par Blaise Shindani Kambala.
Nos interlocuteurs ont parlé de péage. Puis il y avait eu des protocoles qui étaient signés entre tous les pays de SADC. Pour cela, nous avons jugé bon de créer une commission qui va se retrouver incessamment pour pouvoir en discuter. En ce qui concerne le commerce extérieur, nous avons harmonisé avec nos frères zambiens pour qu'il y ait moins de tracasseries de part et d'autre et que les commerces se fassent aussi normalement entre nos deux pays. Nous avons aussi vu les questions liées à la sécurité et de nos deux populations. D'ici peu, il y aura une commission mixte, comme je le disais, qui sera mise sur pied pour étudier de toutes ces questions afin que les protocoles d'accord soient signés entre les deux pays.
Ce journal se poursuit à Kananga. Le gouverneur du Kassai Central, Denis Kambaï, a publié ce dimanche dans la ville son équipe gouvernementale. Elle est composée de 10 ministres, d'un secrétaire exécutif et ses deux adjoints. François Kadima nous en parle.
Publiant la liste des membres de son gouvernement, Denis Kambaï indique avoir tenu compte, entre autres, de réalités sociologiques, des compétences et de la représentativité de la femme. Il a confié le ministère de l'Intérieur au territoire de Dibaya avec à sa tête Mathieu Tolomu Tataï. Parmi les autres territoires représentés, Kazumba qui obtient 2 ministères dont celui du plan agriculture et paysannat occupé par Grégoire Ngalamouloumé. Sur la liste, 3 femmes, Pauline Kamandou à l'éducation et nouvelle citoyenneté, Elisabeth Mbombo au travail, prévoyance sociale et fonction publique, et Mbouy Loubou aux affaires sociales et actions humanitaires. En dehors de ces 10 ministères, le gouverneur Kambaï a créé un secrétariat exécutif et la personne désignée qui passe également pour les porte-parole du gouvernement vient de l'opposition. Il s'agit de Joseph Kachama du mouvement social pour le renouveau MSR de Pierre Lumbi. Il a 2 adjoints. De Kananga, François Kadima, Radio Okapi.
On reste dans la ville de Kananga où la population accuse certains agents de l'ordre d'opérer des rapts à travers la ville. Le dernier cas en date s'est produit la semaine dernière aux environs du marché Tiambadiba au quartier Plateau. Une dizaine de jeunes ont été arrêtés et amenés à bord d'une Jeep. L'OCDH interpelle les secteurs opérationnels qui, de son côté, rejettent ces accusations. Suivez ce reportage de Blaise Ndongala.
À Kananga, de nombreuses personnes disent être traquées par des agents de l'ordre qui circulent à bord d'une Jeep de marque Land Cruiser des couleurs blanches. Un habitant a rapporté son témoignage à Radio Okapi.
Vers 9h à 10h, au niveau de Tiamandip, on a vu un véhicule
il y avait des militaires là-dedans. Ils ont vu des gens qui s'est groupé quelque part. Les militaires ont arrêté ces gens-là. Mais on ne sait pas quelle est la cause qu'on a fait arrêter ces gens-là.
Informé de ces actes, l'Observatoire congolais des droits humains, OCDH, estime que ces comportements n'est pas de nature à favoriser la cohabitation entre les hommes en uniforme et la population.
L'OCDH est tenté de documenter sur la question. Nous sommes une province d'après-guerre et non seulement la guerre est terminée, mais on doit plus développer la cohabitation entre l'armée et la population, et ce qui va cesser de faire croire à la population que les militaires ou policiers sont des ennemis. C'est scandaleux de constater que depuis plusieurs temps, il y a des arrestations qui s'opèrent ça et là.
Contacté, le commandant du secteur opérationnel des FARDC au Grand Kasaï rejette cette information, affirme tout de même que s'il y aurait des arrestations, donc ces personnes auraient des litiges avec l'État. De Kananga, Blaise Ndongala Mayanda, Radio Okapi.
Dans le Haut-Katanga, les habitants du secteur de Lukwanzula et Luanza dans le territoire de Pweto, à près de 450 km de Lubumbashi, ont été sensibilisés depuis quelques jours sur le retour de la paix. L'initiative est du vice-gouverneur de la province qui a séjourné pendant une semaine à Pweto Centre et dans les villages d'environ. Jean Kalinga Mambepa indique que le gouvernement provincial du Haut-Katanga s'est fixé comme l'un des objectifs de mettre tout sur pied pour une pacification totale du territoire de Pweto. Jean Kalinga, vice-gouverneur, est au micro de Radio Okapi.
À Luanza, il a été question de sensibiliser les Bantous, de les désintéresser aux actions de sécurisation de la cité et de laisser la mission à la police, à l'armée, ainsi que aux autorités politico-administratives. Ces échanges nous ont amenés à peser les esprits de la population et à leur faire comprendre qu'ils n'ont pas de raison de s'impliquer dans des actions de protection comme eux-mêmes ils s'imaginent. Et ça a été bien compris et le message a été bien perçu, que ce soit à Lukwanzula ou encore à Luanza. Nous avons sensibilisé la population et à ce jour, je crois que l'application des mesures que nous avons prises, de pouvoir renforcer la surveillance ou le contrôle qui est effectué par la police et l'armée, que cela puisse être intensifié afin de pouvoir rassurer encore davantage la population dans ces différentes cités. Donc ça, c'était principalement à Luanza et Lukwanzula.
Il faut noter que le territoire de Pweto est le théâtre depuis un certain temps des affrontements intercommunautaires entre les Twa et les Bantous ayant occasionné les déplacements des populations. Mais à ce jour, rapporte le vice-gouverneur, plus de 8000 déplacés qui avaient fui leur village suite à ces affrontements sont déjà de retour dans leur village. Ce week-end, à Kindu, 5 véhicules ainsi que plusieurs motos de la province détournées pendant le règne du gouverneur de province déchu ont été récupérés par la commission spéciale d'enquête mise en place par l'Assemblée provinciale du Maniema. Après investigation, cette commission dit avoir constaté 12 faits graves qui pourraient entraîner la mise en accusation de l'ancien gouverneur devant la Cour suprême de justice. Le président de cette commission spéciale d'enquête lance un appel à tous ceux qui détiendraient les biens de la province de manière illégale et frauduleuse de les remettre à l'Assemblée provinciale dans les 15 jours. Passé ce délai, l'organe délibérant du Maniema va saisir la justice. Député provincial Léonard Sandabouleli, président de cette commission d'enquête, l'a dit au micro de Mathieu Lungajamboui.
Je voudrais demander, lancer l'appel à tous ceux qui possèdent les biens du Maniema et qui les ont acquis de façon frauduleuse ou de façon irrégulière, de les remettre à l'Assemblée provinciale. Parce qu'il y a des véhicules qui ont disparu, d'autres véhicules qui sont en promenade quelque part, qui ont été acquis de façon frauduleuse, des camionnettes, etc., ou des jeeps. D'autres engins, des motos, se sont volatilisés dans la nature. Mais également des machines, des groupes électrogènes qui ont disparu et qui sont détenus par des individus sans en avoir l'autorisation. La commission a donné un délai de 15 jours que toutes ces personnes-là remettent tout ce qu'ils ont pris de façon illégale ou de façon irrégulière ici à l'Assemblée provinciale. Passé ce délai, toute personne qui sera saisie ou attrapée avec du matériel qui appartient à la province du Maniema sera nécessairement traduit en justice.
Ituri maintenant. Les prix de certains biens et services ont pris de l'ascenseur sur le marché de Bounia. Cela est consécutif à la situation sécuritaire volatile qui prévaut ces derniers jours dans les territoires de Djougou. Des marchands interrogés déclarent ne plus être en mesure d'accéder à ces zones pour se ravitailler en marchandises. Cependant, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, antenne de l'Ituri, déplore la spéculation des prix à laquelle se livrent certains de ses membres pour se faire des bénéfices sur le dos de la population. Reportage Jean-Claude Lokidile.
Nous sommes au marché central de Bounia. Il est environ 12 heures lorsque nous approchons de Madame Léontine, vendeuse de poissons fumés. Assise à côté de son étalage, elle affirme que ces derniers temps, il est difficile d'écouler ses marchandises.
Et maintenant, le transport des castagnes à Bounia est passé de 15 000 à 40 000 francs congolais suite à la sécurité dans les territoires de Djougou. Voilà pourquoi nous sommes obligés de vendre à un prix cher.
À quelques mètres de là se trouve Mbidjo. Lui également exerce la même activité.
Beaucoup de pêcheurs ont fui à l'Ouganda.
Une situation qui a des conséquences négatives sur les paniers de la ménagère. Angel Angoyo, femme au foyer, vient de faire quelques achats au marché.
Franchement, les prix a triplé. C'est compliqué.
Parmi les produits dont les prix sont en hausse, il y a notamment les haricots, le chou, encore des oignons. Une mesure de 10 kg de haricots, par exemple, qui coûtait 9-10 000 francs congolais, c'est négocié actuellement à 15 voire 16 000 francs congolais. Dimanche dernier, c'est le prix du carburant à la pompe qui avait pris de l'ascenseur. Un litre était passé de 1 500 à 3 voire 4 000 francs congolais auprès des vendeurs. Mais où est passé le service de l'économie nationale dont la mission est de contrôler les prix des biens sur le marché? Nous avons posé la question à Idelfonsa Akayo, son responsable en Ituri.
On n'a pas voulu directement sanctionner, nous avons demandé à ce qu'on puisse les sensibiliser.
Il est 7h11, à Lissala, dans la province de la Mongala. Trois experts du ministère de la Santé et de l'OMS, Organisation Mondiale de la Santé en provenance de Kinshasa, sont arrivés vendredi là à Lissala. Ils sont allés renforcer l'équipe locale dans la lutte contre le choléra. C'est après avoir enregistré 4 cas de choléra avec un décès à bord d'un bateau qui remonte le fleuve pour la localité de Liloku, territoire d'Isangi, province de la Tchopo. De précision avec Dominique Olombi Mongapangi.
À part les 4 cas enregistrés il y a 10 jours parmi les passagers à bord du MB Bano, aucun autre nouveau cas de choléra n'a été signalé. Le seul malade décédé a été inhumé à Ukaturaka, à quelques dizaines de kilomètres en aval de Lissala sur le fleuve Congo, dans la zone de santé de Bosso-Mudanda. Ces bateaux étaient mis en quarantaine en face du port de Lissala pendant 2 jours, le temps de les désinfecter et d'inspecter près de 200 passagers à bord. Selon Dr. Louis Bambé, médecin chef de division provinciale de la Mongala, la zone de santé de Lissala est en train de faire la surveillance dans les familles qui ont accueilli tous les passagers qui ont débarqué à Lissala. Cette surveillance est maintenant renforcée avec les 3 experts du ministère de la Santé et de l'OMS dépêchés vendredi par Kinshasa. Les autorités sanitaires de la Mongala ont alerté la zone de santé de Bumba, située à mi-parcours en amont sur le fleuve, de faire la surveillance dans les familles d'accueil des passagers qui ont débarqué à Bumba. La situation est sous contrôle, aucun cas de choléra n'est encore signalé à Bumba. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Et on revient ici à Kinshasa, où l'avenue Bypass entre la station Salongo et la Cité Verte est à ces jours exposée à une dégradation rapide, faute d'asphaltage de tous ces tronçons depuis l'arrêt des travaux quelques jours avant le début de la saison de pluie en fin 2017. Depuis, les entreprises chinoises, sous la supervision de l'agence congolaise des grands travaux, avaient mis la colle sur la chaussée jusqu'à ces jours. Cette avenue n'est toujours pas bitumée. Conséquence, des nids de poules se multiplient au fur et à mesure que les pluies s'abattent sur cette avenue, en plus de multiples accidents y déplorés. Michel Kifinangoy.
C'est depuis plus de 5 ans maintenant que les travaux de réhabilitation de l'avenue Bypass tardent à finir. Ils ont tout de même évolué en vitesse entre février et juillet 2017. Après la construction des canalisations d'eau ainsi que le nivellement de la chaussée avec de la colle, les travaux se sont arrêtés, comme le déplore ici cet habitant de Mongafula.
Nous avions appris que ce travail n'a pas été fini et il fallait rajouter la dernière couche de goudron. Mais depuis plus de 3 mois, maintenant aucun travail n'est fait ici sur Bypass. C'est vraiment étonnant le rythme des travaux publics dans ces pays.
Cet arrêt prolongé des travaux occasionne une dégradation rapide de la route, affirme ce chauffeur.
Dans cet état, beaucoup de nids de poules s'écrèrent sur la chaussée parce qu'il n'y a pas encore de goudron. Ils avaient mis seulement la colle qui s'enlève progressivement avec les eaux de pluie, ce qui occasionne beaucoup d'accidents parce que les travaux ne sont pas encore finis.
Alors que l'agence congolaise laisse des grands travaux annoncer l'asphaltage de l'avenue Bypass pendant la petite saison sèche en février, à moins de 10 jours de la fin de ce mois, aucune suite jusqu'à ces jours de la reprise des travaux.
Actualité. Kouti, Afrique Monde.
En international, au Togo, le dialogue politique s'ouvre ce lundi à Lomé. Le comité préparatoire a fini ses travaux dimanche 18 février après de longues discussions. Un document est rendu public et servira de feuille de route pour le déroulement du dialogue. C'est un document de 4 pages qui va servir de règlement intérieur pendant les pourparlers entre les acteurs politiques du pouvoir et de l'opposition. 7 délégués de chacune des 2 parties sont conviés à la table de discussion sous la houlette du facilitateur ghanéen. Et puis les opérations pour tenter de retrouver l'avion qui s'est écrasé dimanche matin dans le sud-ouest de l'Iran avec 66 passagers et membres d'équipage ont continué toute la journée d'hier sans grand résultat. Plus de 12 heures après le crash, les équipes de secours n'avaient toujours pas réussi à localiser l'appareil et le site de l'accident. Selon les images de la télévision, l'avion Inater avec plus de 25 ans d'âge s'est écrasé dans un massif montagneux avec une 40aine de pics recouverts de neige sur une altitude de plus de 4000 mètres. L'accident s'est produit vers 9 heures du matin, 50 minutes après le décollage à Téhéran, alors que l'avion entamait sa descente en pleine tempête de neige vers la ville de Yasuj, dans le sud-ouest du pays.